hein, qui dit, si tu veux aller vite, marche tout seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Tu peux aller vite tout seul. Et si tu veux que les choses perdurent dans le temps, eh bien, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin d'être avec plusieurs. Et c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit, du début jusqu'à la fin de la parole, mais je trouve que ce texte particulièrement va nous présenter cela. Alors, les Corinthiens, juste pour introduire un petit peu d'où vient ce passage, pourquoi il est sorti là, l'église de Corinthe, c'est une église donc en Grèce que Paul a implantée, et il entend des choses sur l'église de Corinthe où les gens se discutent, où il y a des divisions, où il y a des problèmes d'expression des dons. C'est une jeune église, et puis ils n'ont pas tous les commentaires bibliques que nous on a aujourd'hui. Ils découvrent un petit peu ce qu'ils sont, ils découvrent un peu ce qu'est la foi chrétienne. Ils n'ont pas des grands théologiens autour d'eux. Donc voilà. Et donc Paul leur écrit cette lettre pour poser un petit peu les choses, pour mettre l'essentiel au centre, montrer ce qui fait d'une église de Christ une église, ce qui fait comment une église va avancer. Et ce qui est formidable, c'est que nous, aujourd'hui, 2000 ans après, on a ces écrits qui sont, je dirais, quasiment éternels. Parce qu'ils sont inspirés de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur a permis à Paul de poser des choses qui sont essentielles pour l'Église de Corinthe, mais qui sont essentielles encore aujourd'hui pour notre Église et pour l'Église de Montreuil-Nation. Et donc, allons regarder ensemble ce texte. Il est un petit peu long, il y a 31 versets, mais ce que je vous propose, c'est qu'on puisse tirer de ce chapitre, quelques principes forts que nous pourrons garder pour votre Église qui a le souci de construire ensemble, construire à plusieurs. Donc, lisons ensemble. Je vais juste vous demander aussi la slide d'après. On va voir voilà, les 4 points qu'on va essayer de tirer ensemble. Il y aurait tellement de points à tirer, c'est un texte tellement riche, mais ensemble, on va regarder tous ces versets. En ce qui concerne les réalités spirituelles, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous laissiez irrésistiblement traîner à les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée au bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, français ou malgaches, petits ou grands, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps pour autant, ne le ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait Louis? S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Bien plus, les parties qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous en trouvons un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, à afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu établit dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous enseignent-ils? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Amen. Notre Dieu, notre roi, c'est ta parole.
Parole
qui est une puissance transformatrice. Ta parole qui édifie, qui encourage. Ta parole qui nous renouvelle. Je prie encore que ce matin, Dieu Tout-Puissant, tu parles à chacun de tes enfants. Que personne, Dieu Tout-Puissant, ne ressorte de ce lieu sans avoir reçu quelque chose de ta part, sans avoir été édifié dans son être intérieur, mais surtout, Dieu de gloire et de miséricorde, que l'Église de Montreuil-Nation puisse vraiment être édifiée dans sa marche avec toi et puisse être unie dans son désir de construire ensemble pour ta gloire et que le nom de Jésus-Christ soit exalté, glorifié aux alentours, en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alors, donc vraiment, on va survoler hein, ce texte, on aurait pu vraiment développer beaucoup de points, mais dans cette perspective de construire ensemble, j'aimerais vous laisser quatre réflexions. On a eu ce chant qui disait « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». En fait, parce que comprendre qui je suis impacte ma façon de voir les choses et la vie. Si demain, je dis à Moïse, écoute Moïse, en fait, on vient d'apprendre, on a fait des recherches ADN et on vient d'apprendre que tu es descendant direct de la reine d'Angleterre. Oh. Tu as du sang royal, Moïse. Tu as du sang royal, Moïse. Est-ce que Moïse, ça va t'impacter? Tu vas juste dire, oh. Non, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que, ah bon, c'est ma famille finalement. Je suis héritier de la couronne. Parce que j'apprends des choses sur qui je suis, ça impacte la façon dont je vais me voir et voir les choses autour de moi. La même chose, si je reçois une missive, si je reçois un courrier, vous savez, on reçoit des courriers dans nos envois, dans nos boîtes aux lettres, etc. C'est marqué EDF, c'est marqué etc., etc. Et si d'un coup, c'est marqué Présidence République Française Élysée. Ah. Vous n'avez pas à la considérer de la même façon, n'est-ce pas? Comprendre qui donne les instructions sur une personne, qui écrit la lettre, va faire que mon rapport à cela est différent. Et mon désir ce matin, c'est d'essayer de sortir de ce texte quelques principes qui vont nous aider d'ouvrir un petit peu et de mieux voir ce que Dieu dit sur l'Église de Nation Montréal, et sur toutes les églises, et sur moi-même, sur vous-même, pour que notre façon de nous voir, notre façon de voir notre Église soit impactée de la bonne façon, parce que ça aura des conséquences concrètes sur la façon dont je vais interagir avec mes frères et sœurs. Le premier point, c'est que nous allons voir que nous sommes très différents, mais unis par Dieu lui-même. Le deuxième, c'est que on va voir que finalement, c'est Dieu qui est le premier engagé dans notre unité et notre croissance. Le troisième point, ça va être qu'il y a un potentiel insoupçonné de puissance transformatrice dans l'Église. Et enfin, nous verrons ensemble que tout le monde a sa place dans l'Église. Et ça, c'est vraiment ce que nous voulons voir encore aujourd'hui. Alors, nous sommes, premier point, c'est que nous sommes unis par Dieu, même si nous sommes très différents. Et on va lire juste un verset. Si on reprend ensemble le verset 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Nous sommes très différents, très divers et variés. les âges sont différents, les générations sont différentes, les travails sont différents, les personnalités sont différentes, les valeurs parfois sont différentes. Vous connaissez cette petite expression où, donc moi je suis d'origine malgache, hein, vous savez, et on est très connu pour notre ponctualité. Très connu pour notre ponctualité. Mais un jour, il y a un frère qui a dit « Oui, mais les Français, ils ont la montre, nous, on a le temps. » Donc, des valeurs différentes. Hein. Moi, j'ai dans mon église des gens, mais quand quelqu'un arrive en retard, vraiment, c'est presque, on l'a blessé. Hein. Il y en a d'autres, si tu arrives en retard, il n'y a aucun souci. Des valeurs différentes dans l'église. Des approches différentes de différentes choses. Et de ce fait, beaucoup de sujets potentiels pour se disputer, n'est-ce pas? Ah, vous les jeunes, ah, eux les vieux. Beaucoup de choses pour se disputer, pour être en tension, pour être divisé. Moi, je suis plutôt quelqu'un, donc je suis assez spontané, j'aime tout ce qui est un petit peu élevé, il n'y a pas de souci si on me dit demain, tu prêches d'un coup, ah, ok, il n'y a pas de souci, etc. Mais dans mon église, les gens avec qui je collabore, il faut que je les prévienne 2-3 mois avant si je veux faire un gros événement. Parce que sinon, ils vont vraiment se sentir frustrés, voire énervés. Waouh! Et donc ça, j'ai appris. Au début, je disais, oh, mais vraiment, c'est des gens qui ne sont pas flexibles, qui sont vraiment... Il faut apprendre à la spontanéité. Mais en fait, non, c'est leur façon d'être. Et c'est leur personnalité. Et c'est une force. Et on a appris à travailler ensemble parce qu'en fait, parfois, on a besoin d'organiser les choses. Mais oui, c'est important de planifier, de avec anticipation, surtout quand l'Église veut vivre des choses bonnes. Diversité. Diversité dans notre Église. Et on pourrait continuer la liste, vous pourriez continuer la liste. Et réfléchissez aux gens avec qui vous êtes en tension. Parfois, ce n'est pas une question de péché. Hein. C'est une question de personnalité, de caractère, de façon d'approcher les choses. Diversité dans notre Église, mais unie par Dieu. Regardez la façon dont ce verset va le dire. Diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit avec un grand E. Mon frère, ma sœur qui est à côté de moi, qui arrive en retard, qui est trop spontané ou trop organisé, il a le même esprit que moi. Ça, c'est important de prendre considération de cela. Paul veut ouvrir l'esprit aux Corinthiens en disant, et il a déjà commencé depuis le début, parce que dès 1 Corinthiens, chapitre 1, il parlait de cette division en disant, mais qui a été baptisé pour vous? Certains disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi j'aime John Piper, Charles Spurgeon, moi c'est Bénin, ou d'autres. Mais c'est qui ces hommes-là? C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que c'est Jésus-Christ. L'esprit qui vous unit. Et ça, c'est plus puissant que le lien du sang. Plus puissant que le lien du sang. On a vu dans notre famille, on a eu un décès récemment, et on a vu la force de la famille, notamment dans les cultures un petit peu d'Afrique ou des îles. La famille, c'est important. Et parfois, même certaines personnes qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne, s'ils te disent « c'est mon frère », en fait, c'est peut-être pas son frère, c'est peut-être son cousin ou le fils de son cousin. Mais en fait, c'est son frère parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a un lien du sang, voire parfois du village. Mais est-ce que nous sommes conscients que le lien de l'esprit est plus fort que le lien du sang? Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis son esprit en moi et en mon frère et en ma sœur. Si demain on vous apprend que vous aviez un frère caché, ton frère. Alors on te raconte une histoire, etc. Et tu comprends, c'est ton frère caché. Mais petit à petit, tu te dis, bon, quand même, faut que je le connaisse. Si on t'apprend que c'est ton cousin ici, tu vas dire, bon, il y a quand même un rapport qui doit être différent. Parce que le lien du sang est fort. Mais ici, ton frère, la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite, c'est ton frère en Christ, ta sœur en Christ. C'est un lien de l'esprit qui est très fort, plus puissant que tout. Le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu. On voit un petit peu la Trinité, hein, esprit, l'Esprit, Seigneur, Seigneur Jésus, et même Dieu, Dieu le Père, il y a une unité qui est en fait due à Dieu entièrement. Et donc, il est important d'entendre et de comprendre que quand bien même nous sommes très différents les uns des autres, il y a un socle d'unité. Il y a un socle d'unité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés assister à des matchs de foot ou des matchs de basket et vous allez croiser des gens qui ont le même maillot que vous, vous voyez? Et vous avez déjà été pris dans le RER où il y avait des gens qui reviennent ou qui allaient dans un match. Est-ce que certains, hein, vous parliez tout à l'heure du RER, parfois je me rappelais, ils vont tous au stade de France, à RER B, et puis ouais, ouais, ça fait du bruit, et puis tu vois des personnes qui ont le même maillot que toi, t'es content parce qu'ils ont le même maillot que toi, tu ne les connais même pas. Mais parce que juste, ils ont même maillot, ils vivent quelque chose de fort. Et frères et sœurs, ayons cette vision qu'on a tous et toutes le même maillot. Amen. On a tous le même maillot. Oui, mais lui, il arrive en retard. Il a le même maillot que toi. Esprit Jésus-Christ, son Seigneur, habité du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Frères et sœurs, si on ne change pas notre façon de regarder notre frère, notre sœur, l'unité est difficile. Mais si on se dit, mais en fait, d'abord, avant d'être en retard, avant d'être trop ceci ou trop cela, il est d'abord dans la même équipe que moi. Ça va changer notre façon de faire. Évidemment que ça va changer notre façon de parler de lui. Ça va changer notre façon d'agir envers lui. Nous sommes unis, même si nous sommes très différents. C'est bien passé. Le deuxième point que j'aimerais vous laisser, c'est que qui est l'architecte de cette unité? Qui est la personne le plus impliquée dans la construction de l'unité de l'Église de Montreuil-Nation? Est-ce que c'est Abdoulaye? Même s'il fait un super travail, hein? Est-ce que c'est un frère ou une sœur qui vraiment lui dit « Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on construise ensemble, il faut... » C'est Dieu. C'est le premier impliqué dans l'unité de l'Église. Et c'est le premier attristé de la division de l'Église. C'est le premier attristé quand il voit des frères et sœurs qui parlent mal d'un autre frère qui est dans la même équipe. Tant que je ne suis pas conscient de cela, je vais me permettre de parler, de diviser. Même à un moment, un texte, Paul dira « Éloigne-toi de ceux qui divisent. Éloigne-toi d'eux. » À Timothée. C'est Dieu qui a le plan d'une église unie. Les anciens proposent, construisons ensemble. Et ils ont raison. Mais le premier qui propose ça, n'est-ce pas Dieu lui-même? N'est-ce pas notre Seigneur qui dit construisons ensemble? Toute la Bible étudie là-dessus. Et très souvent, nous, on va lire dans notre société individualiste des textes en se disant, ce texte est pour moi, je chante pour moi, je prie pour moi. Mais c'est toujours vous, hein, vous avez vu quand on parle dans la Bible, très souvent. Les lettres, c'est écrit à des églises. Il y a quelques lettres pastorales, à Tite, à Timothée, à Philémon. Mais la majorité des lettres, c'est à des églises qu'elles sont écrites. C'est à des personnes. C'est, si on veut voir un groupe, une unité, une équipe qui travaille ensemble. Tant que je ne suis pas conscient que c'est Dieu lui-même qui veut l'unité de mon église, ma façon d'être et ma façon de faire vont pouvoir parfois ne pas contribuer à la division. Mais quand je suis conscient que la lettre vient de la République française, de l'Élysée, ah non, pardon, excusez-moi, du ciel, c'était Moïse qui ce matin nous a fait lire l'Apocalypse. Notre ami Jean, frère et apôtre aussi, il a eu une grâce d'avoir le ciel qui s'ouvre un peu pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe là-haut. La gloire qu'il y a, qu'en fait celui qu'on est en train d'adorer, permanentement, les anges, les êtres vivants, tout le monde est en train de dire gloire à Dieu. Ils sont tous à genoux. Et un jour, toute la terre sera. Et nous, aujourd'hui, nous avons cet appel de dire, maintenant, reconnais qui est ton Dieu, sa gloire, et reconnais son plan et soumets-toi. Et accepte-le. Il veut construire l'Église. Je bâtirai mon Église, dira Jésus. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Imaginez, j'arrive et je dis, je bâtirai l'église de la nuit et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc déjà, c'est un peu plus vieux. Mais on dit un gars qui est engagé. Mais Jésus, quand il dit ça, il n'est pas orgueilleux parce que c'est vrai. Mais on sent quelqu'un qui s'engage, n'est-ce pas? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il dit ça. On sent qu'il s'engage à la construction de l'Église. Et vous savez que ça s'est passé par son sacrifice, par sa mort. Il a payé le prix pour que l'Église puisse naître. Il a payé le prix pour que l'Église puisse être unie autour de lui. Il a payé un prix très lourd pour que tous ces hommes et ces femmes qui sont des juifs et des non-juifs, qui n'avaient aucun lien entre eux, des jeunes, des vieux, etc., etc., puissent être unis. D'abord pardonnés, d'abord libérés et ensuite unis. Dieu est le premier architecte de l'unité de l'Église. Et quand j'ai conscience de cela, cela va m'aider à agir de la bonne façon. Il est dit qu'il a réconcilié les deux. Eux qui étaient divisés par la haine, par l'ignominie, en son corps, dans le sacrifice de Jésus-Christ, l'Église est unie. Les générations sont unies. Les races sont unies. Et même un des points qui pour moi est tellement puissant dans l'œuvre de l'Évangile, c'est pendant des années, un peu moins aujourd'hui, mais pendant des décennies, j'entendais toujours dans les nouvelles les tensions entre Palestiniens et israélites et juifs. C'est vraiment une tension déjà entre arabes et juifs en général, mais palestiniens et juifs israélites. Et quand j'ai appris qu'il y a un mouvement qui unit ces deux mouvements autour de Jésus-Christ, arabes, palestiniens, chrétiens et juifs messianiques, main dans la main, j'ai dit waouh, ça c'est l'œuvre de Dieu. Des gens qui sont élevés, hein, si vous regardez des vidéos, c'est violent. Hein. Il y a des Palestiniens ou des Juifs de leur côté, ils sont élevés en disant l'autre c'est le méchant. Mais t'es petit, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est le méchant, il tue tes enfants. L'autre il dit c'est des terroristes les autres. Et qu'à un moment ou à un autre, cette personne devient chrétienne et arrive à s'unir, mes amis, c'est pas humain. C'est pas juste de la psychologie, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Et alors si un arabe palestinien chrétien, et un juif, messianique, chrétien arrive à s'unir, à combien de fortes raisons, dans notre Église, dans votre Église. Parce que c'est Dieu lui-même qui est architecte, acteur de cette unité. Et on voit même que la façon dont Dieu va donner les dons, il a le souci de ne pas diviser. Regardez ça, c'est assez interpellant. Les versets 24 à 25. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Et dans quel objectif? Parce que, afin que, alors, vous voyez que cette expression, dans quel objectif? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps et que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Merci Seigneur d'être le premier acteur de l'unité de l'Église. Merci Seigneur d'être le premier acteur du fait qu'on va construire ensemble. Et ce qui est formidable, les amis, c'est quand Dieu travaille, eh bien, rien ne peut l'arrêter. S'il travaille à l'unité de l'Église, s'il travaille à construire ensemble, s'il travaille à ce que nous puissions œuvrer ensemble, eh bien, c'est possible. Parce que parfois, c'est vrai, les tensions, les divisions étaient tellement fortes qu'on se dit comment c'est possible. Et je me rappelle de ce couple qui est arrivé dans notre église où la femme, au début, elle venait toute seule parce que en fait, son mari l'avait trompée. Et comment c'est possible pendant 2 ans? Comment c'est possible de reconstruire? Et la parole de Dieu est sévère sur la vie. Sévère envers ce monsieur, très sévère. Et pourtant, aujourd'hui, ça n'est pas je ne sais quel miracle, mais c'est un miracle. Dieu a permis que le couple se reconstruise, que les blessures soient guéries et qu'aujourd'hui, ils avancent ensemble à l'élévation de leurs enfants, mais aussi à servir l'Église. Comment c'est possible? Parce que c'est Dieu lui-même qui est engagé. Amen. Dieu lui-même qui est engagé dans l'unité de l'Église. Le troisième point que j'aimerais vous laisser, c'est qu'il y a dans l'Église un potentiel insoupçonné de puissance transformatrice. Il y a dans l'Église un potentiel immense qui peut transformer les cœurs, transformer le monde. Et que tant qu'on n'est pas conscient de cela, eh bien notre façon de vivre l'Église est aussi impactée. Notre façon de vivre les projets de l'Église est aussi impactée, sont aussi impactés. Notre vision de ce qu'on va ambitionner pour Dieu est aussi impactée. Je ne suis pas conscient du potentiel puissant que Dieu a mis dans l'Église. Malheureusement, beaucoup d'Églises qui ont commencé à tomber dans le libéralisme, dans l'intellectualisme, certaines églises historiques qu'on appelle, eh bien, on voit vraiment se décroître. Alors, ce ne sont pas toutes, merci Seigneur, certaines qui continuent vraiment à marcher avec Christ, mais parce qu'on est tombé dans on est bien ensemble, ou on est là pour être enseigné intellectuellement, être quotidiennement bien, etc. Eh bien, on a oublié qu'en fait, dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de l'Esprit, il y a une puissance qui transforme les vies. On a oublié que c'est une puissance de résurrection. On a oublié que c'est une puissance qui va guérir les blessures émotionnelles. Aujourd'hui, on va beaucoup de gens vont chez les psychologues. Avant, c'était très honteux. Hein. Et maintenant, j'ai mon psy. C'est presque classe. Je vais voir mon psy. Wow. Mon psy qui m'a dit. Et on se dit, ben voilà, beaucoup de solutions d'angoisse, d'anxiété. Un autre mouvement aussi qui arrive maintenant, c'est le yoga. Voilà. Je vois même des chrétiens, alors jeunes chrétiens parfois, mais quand même des chrétiens qui disent, voilà, ben, je pratique la foi chrétienne et puis ben, je vais me détendre avec le yoga. Donc c'est juste des positions, etc. Mais tu as oublié que c'est la puissance de l'esprit qui te redonne la paix intérieure. Qu'au milieu des plus grosses tempêtes, des hommes et des femmes ont réussi à chanter la louange de Dieu. Je me rappelle de cette sœur qui allait se faire opérer, une sœur qui est d'origine assez anxieuse. Elle se dit, Seigneur, je vais me faire opérer, j'ai trop peur. Et là, elle prie, et d'un coup, le Saint-Esprit la saisit, et elle commence à louer le Seigneur alors qu'elle est en train de se faire opérer. Elle est en train de marcher sur le banc de l'opération, et elle est en train de louer le Seigneur. Elle dit, mais je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était vraiment le Seigneur. Pareil dans le deuil. Et là encore, elle a perdu son papa, c'était vraiment difficile, les derniers jours, juste, où chaque jour, elle le voyait dépérir, et à un moment, une paix la saisit. Une paix intérieure, qui n'était pas parce qu'elle avait pris une position du lotus, qui n'était pas parce qu'elle était allée voir son psy, mais parce qu'elle s'était connectée au Seigneur Jésus. Elle s'était connectée, le Saint-Esprit l'avait saisie, et les louanges sont là. Et la paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous croyez à cela?
Amen.
Est-ce que vous croyez qu'il y a une puissance dans l'œuvre de l'Esprit et que l'Église est la première porteuse de ce message? Que toute la ville de Montreuil a besoin d'entendre ça. Que dans votre quartier aussi, oui, pas besoin du psy. Alors, franchement, parfois, il y a des situations où les psys sont utiles parce qu'ils ont réfléchi, ils ont des thématiques, des thérapies, etc. Je ne suis pas contre les psys. Mais je suis contre le fait de dire que c'est là la solution seule. La première solution, on cherche en Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose de puissant. Et tant que je suis conscient de cela, alors je vais ambitionner des choses de ce niveau. Parce que je sais qui est le Seigneur qui est dans l'Église. Regardez les dons qu'il donne. Alors déjà, il a mis l'Esprit, une manifestation de l'Esprit Saint pour le bien de tous. Pour l'édification de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut être édifié dans l'Église de Nation. Parce que c'est le choix de Dieu. Hein? Manifestation de l'Esprit, verset 7. Mais après, regardez ces dons. Donc, de sagesse et une capacité particulière à prendre des décisions sages, donc de connaissances, des révélations que personne même ne comprendrait ou n'aurait su, donc de foi, une capacité à espérer des choses impossibles, donc de guérison, une capacité à demander la guérison de façon assez miraculeuse, donc de miracle, donc de prophétie. Alors, débat sur ce don, est-ce que c'est la prédication, est-ce que c'est des paroles que Dieu va inspirer pour édifier les frères et sœurs de façon spirituelle, discernement des esprits, voir que là il y a un danger avec cette personne ou dans cette situation, même si on ne le voit pas, le Saint-Esprit me révèle, don des langues, là aussi il y a un débat, où
parce qu'on en est à ce sujet-là, mais l'interprétation des langues.
C'est donc mon débat, il faut le dire. Mais ce, là où il n'y a pas de débat, c'est que le Saint-Esprit est en action dans l'Église, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui nous porte. Et le Saint-Esprit est puissant. Et le Saint-Esprit a à cœur la guérison des nations. Et le Saint-Esprit a choisi l'Église, habite dans l'Église, pour que l'Église puisse amener cela. Il équipe l'Église pour qu'elle soit assez forte pour aller conquérir le monde. Mais tant que je ne suis pas conscient de cela, je ne vais pas trop bouger, n'est-ce pas? Imaginez l'entreprise Apple dit, écoutez, voilà notre objectif pour l'année 2023, c'est de vendre 12 téléphones. Sinon, tu n'es pas un petit magasin, tu es Apple. Il faut parler en millions, parler en milliards peut-être. Pourquoi? Parce que voilà, le nouveau PDG dit, voilà, nous, c'est vraiment 12 téléphones, si on fait, allez, 13 comme ça, ce sera vraiment, on sera fort là. Non, mais on se dit, mais tu n'as pas conscience de qui est Apple, de la puissance financière, etc., les ventes et tout, il y a derrière. Parfois, l'Église est comme ça. Notre ambition, c'est d'avoir peut-être une conversion cette année, de voir quelques personnes aller bien, de voir quelques gens s'investir dans le service. Visons grand pour Dieu. Visons grand pour Dieu. Voyons grand pour lui. L'édification des frères et sœurs. La restauration des couples qui sont brisés. La transformation de ceux qui s'éloignent, qui sont dans le péché. La libération de péchés comme la pornographie, le mensonge, la colère. Oui, mais ça, il faut aller voir le psy. Non, non, non. Commence par la puissance de la repentance. Demande pardon à ton Seigneur et crois que Jésus est mort pour ton péché. Et quand il dit « je suis mort pour ça », ce n'est pas juste pour que tu sois sauvé, mais pour que tu sois délivré. Moi, dès que quelqu'un m'agace, au nom de Jésus, crois que tu peux être un homme de paix, un homme de patience, parce que c'est le fruit de l'esprit. Sois ambitieux pour Dieu dans ta vie et pour ton Église. Soyons ambitieux. Croyons que Dieu peut faire des choses grandes. Et après, il est maître des résultats. Mais nous, allons-y. Fonçons en se disant que Dieu va faire des grandes choses. Il s'occupe des conversions. Mais soyons prêts à accueillir beaucoup de monde. Accompagnons tous ceux et toutes celles que nous voyons. Soyons des témoins de notre travail. Je me rappelle de cette jeune sœur, vraiment, elle venait juste d'arriver, elle n'avait pas beaucoup de contacts chrétiens, elle avait été contactée par une personne dans son école et elle vient à l'église et le Seigneur la touche. Puis elle ramène sa maman et le Seigneur touche sa maman. Puis sa maman ramène ses deux autres filles et les deux autres filles sont touchées. Puis elle ramène son copain. Et le copain est touché. Et tout le monde se fait baptiser. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Soyons prêts à accueillir ces gens-là. Soyons prêts à les accompagner. Soyons prêts à prendre du temps avec elles. Je vais beaucoup proclamer que en Chine, il y avait 10 000 conversions par jour. Et j'aime bien dire ça parce que je trouve ça toujours vraiment merveilleux. Vous rendez compte, 10 000 conversions par jour, c'est juste fou, quoi. Parce que pendant très longtemps, moi, je croyais que la Chine était complètement en train de tuer tous les chrétiens et que c'était fini. Et donc, il y a quelques années, j'ai appris qu'il y avait 10 000 conversions par jour. Et je dis, waouh, 10 000 conversions par jour. Et là, Priscilla me dit, mon épouse me dit, mais c'est parce que des gens, des chrétiens, parlent de Jésus tous les jours. Ah oui, c'est vrai. C'est pas juste, tu sais, 10 000 conversions par jour. Non, c'est bien qu'il y a des chrétiens chinois qui vont prendre le risque d'aller voir d'autres chinois pour qu'il y ait de la conversion. Ambitionnons, mon Dieu. Prenons des risques. Allons de l'avant. Prenons des risques même financiers. Dans des projets, dans des investissements. Je ne sais pas quels sont les projets d'église, mais essayons de voir, posons-nous, et essayons de voir si nous avons des projets à la mesure de ce que Dieu est. Posons-nous dans notre vie. Est-ce que je crois vraiment à l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans la délivrance de mon péché? Posons-nous dans mon service. Quand je vois mon service pour les enfants, pour la louange, pour la prédication, pour la présidence, est-ce que je me dis, j'espère que ça va bien se passer, que ça va terminer à l'heure? Cool, j'ai fait l'heure. Parfois, c'est vrai que c'est un défi. Hein. Pour certains prédicateurs comme moi, finir à l'heure, parfois, ça, il y en a qui peuvent prier à l'aide du miracle. Mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? On veut voir ces enfants transformés. On veut voir ces enfants des témoins dans leur génération, dans leur école. On a invité une copine à Eliana récemment. Et là, Eliana, elle me surprend. Et elle dit à sa copine, « Et tu sais que Jésus va revenir et il nous a préparé une place au ciel. »
Elle est d'origine musulmane.
Si elle rentre ce midi chez ses parents et dit que Jésus a préparé le ciel. Mais merci, Eliana, tu as raison. Qu'est-ce qu'on veut voir, mes amis? Qu'il en soit fait selon ta foi, dira Jésus. Ma foi, je me dis mince, je sais que ma foi n'est pas toujours au rendez-vous. Mais que Dieu nous fasse grâce.
Et on va terminer avec cela. Transformation pour le monde, transformation pour vous et transformation pour les frères et sœurs dans l'Église. Je peux passer.
Vraiment, vous avez tout et toute votre place. Et je trouve que ce texte, il y en a plusieurs dans ce texte, mais il dit, si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait lui? Si tout le pied était lui, où serait l'odorat? Parfois, on peut se dire, oui, je comprends tout ça, mais moi, je n'ai pas vraiment ma place en lui. Parce que ben, moi, je ne chante pas très bien, comme mes sœurs tout à l'heure, c'était magnifique. Je ne joue pas vraiment d'un instrument. Quand je suis en public, je ne parle pas très bien. Et je n'ai pas vraiment de don d'intercession. Mais en fait, tu as quand même reçu un don, tu le sais. Quel que soit l'homme et la femme qui est en Jésus-Christ, il a reçu un don, au moins un don. Au moins un don. Verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit et de lui. » Et il dira avant que c'est toutes les personnes, verset 3, c'est toutes les personnes qui croient que Jésus est Seigneur qui ont l'Esprit. Tous celles qui croient que Jésus est Seigneur ont l'Esprit. Tu as un don. Et je trouve que ce texte, il répond aussi à deux catégories de personnes. Toutes les personnes qui peuvent être complexées, qui peut-être à cause de leur éducation, à cause de leur passé, on dit, mais tu ne sers pas vraiment à grand-chose, tu n'as pas vraiment don, qui ont plutôt un complexe d'infériorité, qui se disent, moi, je ne suis pas très doué et je n'ai pas vraiment de charisme, etc. Le Seigneur ici vous encourage. Il dit, tu as ta place. Et il va même plus loin. Il va très, très loin, ce texte. Il dit que si, quand bien même tu souffrirais, toute l'Église souffrirait avec toi. Alors, comment comprendre cela? Prenons ce frère qui se croit vraiment inutile, mais qui, en fait, ne le sait pas, mais Dieu lui a donné un don d'intercession. Qui fait qu'il se maintient dans la prière. Qui fait qu'il prie pour les personnes de façon très discrète. Personne ne le sait, mais chaque jour, il prie pour l'Église, il prie pour les personnes en souffrance. Le jour où cette personne souffrira, parce qu'il a été impacté, il peut moins prier, eh bien, toutes les personnes pour lesquelles il intercède vont être impactées. Cette personne qui, par son amour, par son accueil, par son sourire, il n'a aucune responsabilité, mais par son accueil, son sourire, il met bien les personnes. Il accueille les nouveaux. Ce frère ou cette sœur, le jour où il souffre, eh bien, tout son accueil ne sera plus là. Voilà comment je comprends ce texte. Ce n'est pas que si l'un a perdu un frère, tout le monde d'un coup est souffrance, mais c'est en fait c'est le bénéfice que cette personne apporte dans le corps de Christ, qui vient de Dieu, et c'est Dieu qui a choisi que cette personne-là va bénir l'Église. Eh bien, quand cette personne est impactée, ce bénéfice est moins là. Il parle à toutes ces personnes-là. Votre présence, vous avez un don, mettez-le au service de votre Dieu. Mettez-vous en action pour lui. Pas pour votre bien, pas pour votre gloire, mais pour le bien de l'Église. Par amour pour l'Église. Il en parlera dans la Corinthiens 13, il dira, allez-y par amour pour l'Église. Et ce texte aussi parle à celles et ceux qui ont des dons plus visibles, comme la prédication. Voilà, les titres pastoraux, parfois, ça. Certains, au début, ils me vouvoient quand ils arrivent à l'Église de la nuit. Les pasteurs, bonjour. Et là, la parole dit, mais on n'a pas besoin que de pasteurs. On n'a pas besoin que de prédicateurs, que de présidents. Parfois, certains pourraient avoir le contraire, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment un complexe d'infériorité et d'eux qui se disent, ben moi, heureusement que je suis là, en fait. Heureusement que mon don est là, en fait. Hein. Et là, il dit, mais en fait, toi aussi, tu as besoin des autres. Toi aussi, tu as besoin du soutien. Il le dit. L'œil, verset 21, ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Le monde est de mettre en avant ce qui est visible, ce qui est clinquant, ce qui est grand, ce qui est puissant. Vous avez vu comment Dieu agit différemment. Juste un exemple parmi les milliers depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'en donne un qui est vraiment marquant. Bonjour Isaïe, est-ce que tu as... Dieu m'a dit que dans ta famille, il y aura un fils qui va être roi. Ah, voici mes fils. Et il passe, le prophète Samuel passe, et passe, et passe, et passe. Et il regarde Samuel, ah ouais, pas mal. Non, c'est pas bien. Ah, c'est excellent. Non, c'est pas bien. Il est grand. À la fin, il dit, non, mais je comprends pas, je... Il n'y a personne. Et là, le papa, imaginez comment il considère le fils, le papa. Ah bon? Il n'y en a aucun pas. Ah oui, c'est vrai, j'en ai un petit là-bas au fond qui s'appelle David. Ben, t'es sûr? Parce que vraiment, il est tout petit. Hein, tu penses vraiment que c'est lui? Et puis, c'est un petit, il fait de la musique. Il est... Le monde aime ce qui est grand. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc, ne regardons pas les grands prédicateurs, les grands machins, parce que ce n'est pas forcément eux qui font la différence dans une église au quotidien. Soyons humbles. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par une vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous, habite en tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du nom de Christ. Sachons que c'est Dieu qui est l'architecte de l'unité. Quand bien même nous sommes très divers, très variés, nous sommes unis parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Rappelons-nous que dans notre Église, il y a un potentiel immense. Et dans notre vie, il y a un potentiel immense. Pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire, pour la gloire de Dieu, pour la transformation de ce monde. Et que chacune et chacun sache que vous avez votre place dans ce corps, pour la construction de cette Église. Donc la question c'est comment, Seigneur? Comment, Seigneur, puis-je être un architecte dans l'Église? La question pour le responsable c'est comment permettre à chacune et à chacun de prendre sa place dans ce corps que Dieu a choisi. Tout cela va se faire dans la prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a choisi, il a dit c'est le Saint-Esprit qui va le donner. Et donc je vous propose maintenant de terminer par la prière, une prière que je propose que vous puissiez continuer une écoute et une obéissance pour sa gloire. Notre Dieu, notre roi, merci encore. Parce que c'est toi qui as payé le prix pour l'Église, c'est toi qui travailles à son unité, qui transforme les cœurs. Et maintenant, je te remercie parce que tu es impliqué pour l'Église de notre nation. De prier pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre, ils ont leur place, que tu les encourages. Je te prie pour celles et ceux qui ont besoin de retrouver une vision d'unité de l'Église. En fait, elle est déjà construite par toi. Je te prie pour celles et ceux qui ont besoin de se rappeler que c'est toi, depuis le ciel, qui a mandaté l'Église et qui a choisi de construire avec elle. Je te prie pour celles et ceux qui ont besoin de se rappeler que tu as une puissance transforme les cœurs, les vies. Ce matin, ils puissent dire, oui, Seigneur, transforme-moi. J'ai besoin. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons. Aide-nous à être à ton écoute et à t'obéir parce que c'est toi qui construis l'Église. Quand on dit, nous construisons ensemble, en fait, on construit d'abord avec toi. Amen.